بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاعه الإسلام comme on avait convenu hier ce soir on va faire inshallah une proposition de planning pour une nuit de ibad. On avait rappelé hier que la grande difficulté, c'est que nous ne sommes pas habitués à passer du temps dans les actes d'adoration. Tout juste si on peut consacrer notre temps pour la salat al-tarawih, et c'est ce qu'on fait de plus long durant toute l'année en termes de prière, ça il faut être réaliste. Maintenant, quand il est question d'être autonome, de ne pas suivre un imam, mais de gérer soi-même sa soirée de minimum 3 heures ou 4 heures, ça paraît être impossible. Faire une heure et demie derrière un imam, il faut juste tenir physiquement et essayer de rester concentré. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis le début, bi'ivnillah et qu'Allah accepte. Mais il suffit juste, on va dire entre guillemets, juste de suivre l'imam. Sa lecture et tout, c'est lui qui gère. Maintenant, comme on a dit, quand c'est nous qui devons diriger, qui devons être, on est un peu maître de notre nuit de ibada, ben, le risque c'est quoi? C'est que dès le départ, on fait tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on sait faire, et après à un moment donné il y a un vide et on ne sait plus quoi faire, et on se dit que ben voilà, je me suis réveillé à 2 heures ce soir avec espoir que je pouvais passer mashallah une grande partie de la nuit jusqu'au suhur, il y a 2 heures, 5 heures en ibadah, chose que je n'ai pas l'habitude de faire, et on se rend compte qu'à 2h20, 2h30 maximum, ben on a déjà fait tout ce qu'on avait prévu de faire et on commence, je dirais pas à s'ennuyer, mais presque à s'ennuyer, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour continuer à rester en état de veille spirituelle. Voilà donc un programme qui est applicable pour des personnes qui sont faibles comme nous, pour des personnes qui, encore une fois, on a dit, on le répète, qui ne sont pas habituées à passer des nuits en ibad. Encore une fois, je le dis et je le répète, ce n'est pas une sunna, ce n'est pas la façon de faire parfaite et ainsi de suite, ce sont là des conseils. Puis chacun, il a ses habitudes, si on peut adapter comme on peut. Bi'ivnillah. Alors, selon moi, wallahu a'lam, la première chose à faire quand on est à l'aube d'une nuit impaire, comme c'est le cas ce soir, ce soir sera la nuit du 25e, idéalement, c'est de commencer l'état de concentration pour cette nuit à partir de la rupture du jeûne. Et quand on va casser le carême, quand on va rompre le jeûne, on demande à Allah Azza wa Jal, Ya Allah, donne-moi tawfiq, accepte-moi pour consacrer cette nuit dans ton adoration. Ya Allah, que je sois parmi les personnes qui vont répondre présent lors de la nuit du destin. Et là, comme on a dit, on parle avec Allah. On dit, Allah, tu connais mes faiblesses. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas tutoyer, il faut vous voyez. Mais là, on parle avec Allah, là. Il n'y a pas d'intermédiaire. On parle comme on peut. Si on veut parler en créole, en chimaoré, peu importe. Allah connaît le langage même des cœurs. Dis, Allah, tu connais mes faiblesses. Tu sais que je n'arrive pas à faire ça. Mais j'aimerais faire partie de tes pieux serviteurs. J'aimerais être quelqu'un, un serviteur que tu vas aimer ce soir. Donne-moi la force, donne-moi le tawfiq, aide-moi, ya Allah. Il faut parler très sincèrement avec Allah Azza wa Jal. Donc, selon moi, la première étape, c'est de demander à Allah tawfiq au moment de rompre le jeûne. Si on n'a pas pu, comme là, c'est passé, quelle que soit la période, avant de commencer notre nuit de ibadah, on demande à Allah de nous aider. Alors, deuxième conseil qu'on pourrait donner, c'est en rapport avec ce que certains pieux prédécesseurs faisaient lors des dix dernières nuits, la dernière décade, c'est de prendre un bain. Bain al-Maghrib wal-Isha. Alors, bain al-Maghrib wal-Isha, parce qu'ils restaient éveillés depuis après Isha et après Tarawih, c'était parti jusqu'au Suhur. Maintenant, à notre niveau, si on va démarrer notre nuit de prière à partir, je dis 2 heures, hein, c'est un chiffre, 2 heures, ben idéalement, juste avant de commencer, c'est là qu'on prend le bain. Pour enlever un peu le sommeil et pour qu'on se sente un peu plus frais. Donc, ça, c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, ça, c'est ce qu'on avait écrit l'année dernière, on essaie de se réveiller au moins à 2h30. Au moins 2h30. De nos jours, avec les GSM, il y a 5 ou 6 alarmes qu'on peut régler. on peut démarrer une petite alarme tranquille, gentille, pas trop gentille quand même, et ensuite des alarmes un peu plus violentes, d'accord ? Pour qu'à un moment donné, on sait que obligatoirement on doit se réveiller. Après ça, c'est des conseils, hein, on va dire des conseils d'amis, hein. C'est valable pour n'importe quelle occasion. Idéalement, ne mettez pas votre réveil, votre GSM à côté de vous pour sonner. Et quand vous allez l'entendre, vous allez automatiquement appuyer. Surtout que les écrans tactiles de nos jours, vous touchez n'importe quel endroit et ça répond. Mettez-le un peu plus loin pour que ça vous oblige à vous lever. Donc, voilà concernant l'heure du réveil, on suggère à 2h30. Alors, il était de l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se réveillait pendant la nuit pour faire ses prières, il avait l'habitude de lire « Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ard wa man fihin ». Le doua est un petit peu long. Le doua se trouve dans la citadelle du musulman. Ça, c'est un livret que tout le monde doit avoir. Si on ne l'a pas, on peut le télécharger, taper sur Google « Citadelle du musulman », automatiquement vous l'aurez, Inch'Allah. Et dans l'édition que j'ai, c'est à la page 57, il suffit de chercher dans le sommaire le doua numéro 32. Lorsque le prophète se réveillait pendant la nuit pour faire ses prières, mais quel doua il lisait. Donc pour mettre une sunna en pratique, avant de démarrer, on peut commencer par ce doua. Comme l'avait expliqué, il y a quelques jours, les pieux prédécesseurs avaient l'habitude de mettre des vêtements propres et spécifiques pour la nuit de Ibad. Comme on avait dit hier, ne faites pas la prière de la nuit, ne passez pas cette nuit Ibad avec votre pyjama ou avec votre maillot, votre t-shirt, maillot de football. Non, c'est pas respectueux. Même si le corps est bien couvert, mais il faut une tenue qui est appropriée pour cette grande occasion où on se présente devant Allah Azza wa Jal. Et si c'est la nuit du destin, on sait que les anges descendent massivement et viennent même observer les serviteurs d'Allah qui sont en qiyam, qui sont debout. Donc on essaie de mettre des vêtements propres. Idéalement, on essaie de se parfumer également pour que, comme on dit, on se fait beau pour Allah Azza wa Jal avec cette conviction qu'Allah me voit. Allah me voit à cet instant. Hada. Idéalement, c'est de choisir un endroit agréable pour passer notre nuit en prière, un endroit qui est bien aéré. On éloigne tout ce qui peut nous perturber et éloigner le GSM. Parce que sinon, tous les 5-10 minutes, on va vérifier s'il n'y a pas une notification. Facebook ou WhatsApp ou Twitter, si vous êtes sur Twitter, s'il n'y a pas un ami qui vous envoie une photo de lui, un Snapchat en train de prier, en train de dire « Doua de la nuit du destin, qu'Allah accepte », tout ça, on évite. On l'éloigne complètement. C'est comme quand vous révisez pour les examens. Quand quelqu'un révise pour son bac, s'il laisse le GSM à côté de lui, il est mort. Tous les 5 minutes, il va entendre sonner, il va regarder qu'est-ce qu'il y a. On éloigne tout ce qui peut nous déconcentrer. On essaie d'avoir à portée de main tout ce qu'on a besoin. On a besoin de mouchoir, on a besoin de choses basiques, une bouteille d'eau, tout ça, on garde à côté de nous. Le but, c'est de ne pas aller à droite, à gauche. De ne pas aller dans la cuisine, chercher quelque chose, la salle de bain. Ça, c'est du temps perdu. Donc, on essaie de se mettre dans les conditions. Et puis, chacun, il connaît c'est quoi les conditions idéales pour lui. Ça, c'est un conseil personnel. Moi, je trouve que c'est bien que quand on fait cette prière de la nuit, de temps en temps, on a un visuel sur le ciel. De temps en temps, on regarde le ciel. On admire la beauté du ciel, surtout c'est le temps à dégager. On voit les étoiles, on se rend compte que on est en train de se prosterner devant celui qui est au-dessus de celui qui a créé le ciel, les étoiles et ainsi de suite. Ça a un effet quand même sur le cœur. Ça, c'est dans la mesure du possible. Si vous avez une terrasse ou un balcon, ben c'est pas mal. Alors, il était de l'habitude, Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il commençait ses prières de la nuit, il commençait par 2 unités de prière très courtes. Ne pas démarrer directement avec des longs rak'at, comme on va expliquer. On pourrait démarrer avec « Qul ya ayyuhal kafirun » par exemple et « Qul wallahu ahad ». On se fixe un minimum, au moins 10 rak'at de tahajjud, pas moins. Au moins 10 rak'at de tahajjud, mais qu'on va étaler. Ça c'est un conseil, hein. Ce n'est pas une sunna, c'est un conseil. 10 rak'at, on essaie de meubler. Si on dit de 2h30 jusqu'à 5h, ça fait 2h30, on essaie de répartir les 10 rak'at. Ne faites pas les 10 rak'at d'un coup. Parce que sinon, on va le faire comme une routine rapidement pour compléter 10 et puis on va voir qu'est-ce qu'on fait après. On essaie de répartir les rak'at. On commence 2 rak'at et quand 2 rak'at est terminé, là, on va faire une action particulière qu'on va expliquer. Alors, ces rak'at, comment elles doivent être. Ces rak'at, il faut, dans la mesure du possible, lire de longs versets. Si on connaît, je pense que la plupart d'entre nous, on connaît au moins Yassine par cœur. Je pense qu'on connaît Tabarakallazi biyadihil mulk par cœur, peut-être même Sourate Al-Kahf par cœur, ou au moins on connaît Ayatul Kursi, l'intégralité d'Ayatul Kursi. On connaît la dernière page de Surah Baqara. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ce sont des passages qu'on connaît. Ne lisez pas wal 'asri inna a'tainaka al-kawthar idha zulzilatil ardu, parce que ce sont des sourates qu'on lit tout le temps. On essaie de donner notre ampleur à ces qiyamul layl, à ce namaz, à cette prière de tahajjud. Parmi les ayats que le prophète avait l'habitude de lire de la prière de la nuit, si on le sait, on le lit autrement khair, inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari, lequel la ayat li ulil albab, parce qu'il y en a deux, la ayat li ulil albab, et puis il y a alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Donc si on connaît ce passage khair wa ni'ma, le prophète le disait dans le tahajjud, dans la prière de la nuit. Alors, donc déjà on a compris, les unités de prière doivent être longues. On doit faire de longs rakats avec de longues lectures. Idéalement, on essaie, comme on avait expliqué l'année dernière et l'année d'avant également, on essaie de varier les adhkars dans le ruku, quand on se relève du ruku, dans le sujoud, dans la prosternation, et entre les deux sejda. En général, le ruku, qu'est-ce qu'on lit? Subhana rabbiyal azim. Il y a d'autres du'as qui sont également masnoun. Subhana rabbiyal azim, ça veut dire gloire à mon Seigneur, le sublime. Il y a des du'as, par exemple, subhanaka Allahumma rabbana, wa bihamdik Allahumma gfirli. Ça, c'est un du'a qui est facile. Ou alors, subuhun quddusun. Vous connaissez ça, non? Rabbul malaikati wal ruh. Ce sont des adhkar qu'on peut lire dans le ruku, et on va dire, ça change un peu. Il est pas mal de varier les adhkar. Maintenant, il faut les mémoriser. Ce qu'on lit de ruku, on ne peut pas avoir. Quand on prie, on ne peut pas avoir un livre en main, bien sûr. Si on connaît, alhamdulillah. Mais si on ne connaît pas, ben on garde les adhkar qu'on connaît. Pareil, quand on se lève du ruku, en général, on lit Rabbana wa lakal hamd. Mais il y a des du'as qui sont plus complets. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi. Ce sont des du'as qui sont un peu longs. Dans la prière normale, on ne peut pas. Quand on prie l'imam, il n'y a pas le temps. Et très souvent, dans la vie de tous les jours, on est un petit peu... On est un peu pressé, c'est malheureux de le dire. On prie parce qu'on doit partir. Mais là, c'est vraiment une nuit de prière. Une nuit, on est là que pour ça. Si on connaît ces adhkar, on essaie de les lire. C'est vraiment l'occasion. Également, dans le sijda, et tout ça, il y a dans la citadelle du musulman. Dans le sijda également, Subhan Rabbi al-A'la, c'est ce qu'on dit tout le temps, gloire à mon Seigneur le Très-Haut. On pourrait lire Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli, ce qu'on a dit tout à l'heure, ou Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati wa Ruh, ou d'autres du'as. Pareil, entre les deux sejda, en général, entre les deux sejda, on ne lit rien. Parce que bon, on va vite. Mais parmi les du'as qui sont masnoun de lire, quand on est en prosternation, on s'assoit, et puis on retourne en prosternation, cette position assise, on peut lire Allahumma gfirli dhambi kullah. Ou alors il y a Rabbi ghfirli warhamni wa'afini warzuqni, c'est l'occasion de compléter la salah avec des adhkar qu'on n'a peut-être pas l'habitude de lire. Également le doua final, d'habitude on lit Allahumma inni dhalamtu nafsi, on pourrait agrémenter et augmenter ces doua en lisant Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab jahannam wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal, doua que le prophète avait l'habitude de lire dans la fin de la salah. Donc voilà, l'objectif, c'est d'essayer d'apporter un peu plus de adhkar, d'enrichir ses prières. Donc, comme on avait dit, on fait deux rakats avec des sourates qui sont un peu longues, et ensuite, après avoir fait deux rakats, on pose, pour ne pas enchaîner les 10 rakats. On pose, c'est-à-dire on fait quoi? On reste de l'ibada, idéalement, on se fixe, par exemple, entre deux rakats, après les deux premières rakats, mais je vais essayer de lire 100 fois, par exemple, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. En méditant sur le sens de ce dhikr, en pensant à ses péchés, en reconnaissant qu'on s'est fait du tort à nous-mêmes, et on s'oriente vers Allah Azza wa Jal. On essaie de le faire 100 fois. Et après avoir lu « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin » 100 fois, sachant que c'est un dhikr que on peut lire quand on est dans une difficulté, quand on est dans une situation difficile dans notre vie, ça fait partie des adhkar qui peuvent être lus. Dans certaines versions, on parle de 40 fois ou alors de 100 fois. Mais après avoir lu 100 fois, de demander à Allah Azza wa Jal de l'aide pour un problème qui vous concerne. Si on a un problème quelconque, on peut dire « Ya Allah, je te demande de l'aide pour telle situation. C'est-à-dire que le doua, on n'est pas obligé de faire en une seule fois. On peut fragmenter le doua. Vous faites deux rakat, quelques adhkar, 10 minutes de dhikr, vous faites doua. Ce qui vous passe par la tête à ce moment. Et ensuite, on recommence deux rakat, comme on a expliqué tout à l'heure. Parmi les adhkar qu'on pourrait lire également dans la prosternation, il y a La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ça, c'est un dhikr qu'on peut lire dans la prosternation et ce serait un dhikr magnifique. Et puis, si on connaît le sayyid al-istighfar, le meilleur dua que le prophète nous a enseigné pour l'istighfar, qui commence par Allahumma anta rabbi, pour ceux qui connaissent. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Vous connaissez? Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Ce dua, il est jami'a. Il est global et complet. Pourquoi? Parce que en même temps, tu reconnais la puissance d'Allah, la divinité de ton Seigneur. Deuxièmement, tu reconnais les bienfaits qu'Allah t'a accordés. Et troisièmement, tu reconnais tes erreurs. C'est-à-dire, et là, tu ressens de la culpabilité. Parce que Allah t'accorde plein de choses et tu es ingrat, tu commets des péchés. C'est là qu'il y aura une présence de cœur. Ça, les doigts, le prophète, ce sont les meilleurs des doigts. Donc, le sayyid al-istighfar, si on ne le connaît pas en cœur, machin, on peut le lire de la prosternation. Si on ne sait pas, il y a toujours le petit livre, Hisn al-Muslim, la citadelle du musulman, ou n'importe quel autre livre de doua, où on télécharge sur Internet, on imprime, on est capable de le faire, on cherche sayyid, on a tous un ami qui s'appelle sayyid al-istighfar, meilleur des istighfar. C'est sûr, ça se trouve très facilement, inshallah, sur Google. Parmi les actions qui peuvent accompagner les doua, le fait de pleurer, si on peut pleurer dans nos doigts, dans notre demande de pardon, c'est une bonne chose. Si on n'arrive pas à pleurer, qu'est-ce qu'on doit faire? On essaie de pleurer. On fait semblant, mais là, on va dire, mais est-ce que ce n'est pas l'ostentation? Répondez. C'est l'ostentation ou non? Mais il n'y a personne qui t'entend. Tu fais l'ostentation pour qui? Il n'y a personne. Il n'y a que tu essaies de pleurer, tu essaies de provoquer un peu ces émotions, et avec espoir que peut-être qu'Allah donne ta vie de pleurer, réellement. Tabaki, qu'on appelle ça en arabe. Donc là, bien sûr qu'on est seul. S'il y a du monde, non. Là, ce serait de l'ostentation. C'est-à-dire que là, on est seul devant Allah, Azza wa Jal. Et parmi les adhkars qu'on doit essayer de lire entre chaque rakat, une vingtaine, une cinquantaine, une centaine de fois, comme vous voulez, le dua de la nuit du destin, Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa, fa'afu anni. D'accord? Donc, et al-afu, c'est le pardon intégrale des péchés. Mahou dhunoub hatta la yabqa athar. Al-mahou, quand on dit qu'Allah, al-afou, pardon, fa'afou anni, quand on demande à Allah fa'afou anni, c'est un pardon total du péché, de telle façon qu'il ne reste plus de traces. Parce que quand j'accomplis un péché, les anges inscrivent le péché, oui ou non? Les anges inscrivent le péché. Quand j'accomplis le péché, l'endroit où le péché a été accompli va témoigner contre moi le jour de Qiyama, qu'Allah nous protège. Les membres du corps qui ont été sollicités pour le péché vont également témoigner. Il y a un verset qu'on avait lu il y a quelques jours, lorsque la peau, le corps va témoigner, « وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا » Ils ne comprennent pas eux-mêmes pourquoi est-ce que leur corps, leur peau se met à parler, à témoigner contre eux-mêmes. Alors que lorsque le feu de l'enfer va les toucher, ben, c'est cette peau même qui va être brûlée, qui va être grillée, qu'Allah nous protège. C'est la sunnah d'Allah Azza wa Jal. Donc, quand on dit que « fa'afu anni », c'est qu'Allah il pardonne et Allah efface toutes les traces. Il ne reste plus de traces. Ce péché-là, quand il était pardonné, je ne dis pas qu'on a tourné la page. On a déchiré la page et on l'a brûlé. La page désintégrée, c'est fini. Jamais plus ce péché ne refera surface. On te posera une question jour de Qiyama. N'est-ce pas là un cadeau magnifique de la part d'Allah? C'est le seul qui peut pardonner de cette façon. Même les hommes, même entre nous, même dans un couple. Des fois, on a fait une petite bêtise. Enfin, petite, hein, pas les grosses bêtises, c'est plus compliqué. Les petites bêtises. Et madame pardonne, mais quand il y a un moment, dans un tournant, elle ne te loupe pas. Dans un tournant, où tu es en position un peu de faiblesse, il va te rappeler, il va tirer les vieux dossiers. Oui, tel 1er janvier 2005, tu as dit ça, 2 février 2014, tu as redit ça chez ma belle-mère, chez ta belle-mère, ainsi de suite. Les vieux dossiers, on retire. Les êtres humains, même ceux qui s'aiment entre eux, ils n'hésitent pas à revenir sur les erreurs passées. On est fait comme ça. C'est la nature humaine. Mais dans notre relation avec notre Créateur, c'est différent. Quand on dit Allah fa'afu anni et qu'Allah t'a accordé son pardon, c'est fini. Quelle que soit la gravité du péché, si on a réuni les conditions nécessaires qui est qui sont les remords, l'intention ferme de ne plus recommencer, et on prend des précautions pour ne plus retomber de ce péché, et qu'on est sincère, quand Allah décide de pardonner, il n'y a plus de traces. C'est entièrement effacé de notre livret de compte, de l'endroit où ça a été accompli, et les anges ne feront plus jamais mention de ce péché. Quels sont les autres dhikr qu'on peut faire entre les rakat? On peut faire par exemple, là on est jeudi soir en plus, on peut lire As-salatu ala nabi le durud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. On pourrait lire 100 fois, ce serait une bonne chose. Parmi les adhkar, on pourrait lire tout simplement, je dis tout simplement, on pourrait lire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatut tawhid. On pourrait lire entre les rakat de tahajjud, le sayyidul istighfar, c'est facile de le lire, même si on ne le mémorise pas, on peut le lire. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. C'est des dhikr qu'on connaît ça. Même si on n'a pas l'habitude de lire, on a tellement entendu que c'est dans la tête. Faites-les ressortir et lisez. Maintenant, si on veut lire un peu de Coran, il n'y a pas de mal. Bien sûr qu'il n'y a pas de mal. Lisez le Coran. Tout en sachant que les pieux prédécesseurs préféraient en priorité les doigts, istighfar et salat. Lecture du Coran, on va dire, c'est la journée. D'accord? Mais si on sent que, surtout, par exemple, nos mu'takifin, qui, s'ils ne vont pas dormir ce soir, ben, qu'ils lisent un peu le Coran, par exemple, hein, ça reste un ibadah, ça fait partie des ibadahs qu'on peut faire pour passer la nuit dans l'ibadah. Hada. Autre conseil, autre mise en garde, ne vous appuyez pas. Ne pas se dire que là, on s'étire un petit peu, tu fermes un petit coup les yeux, tu ouvres les yeux, oh là, il est 5 heures, c'est l'heure de manger. Et tu as raté la nuit que tu... Ça arrive. Ça nous arrive à tous. Des fois, même sans s'appuyer, il est 3h30, tu te dis, on fait un petit coup des yeux comme ça, tu te réveilles, subhanallah, tu as réussi à dormir 45 minutes assis. Chose que tu n'aurais jamais pu faire. D'habitude, on est un petit peu douillé, on a besoin de notre lit, notre confort. Mais là, quand il s'agit de prière, on arrive même à dormir assis. Vraiment, adjib. Hein. Donc, on essaie vraiment de rester éveillé. Petit conseil, ça, il n'y a rien de sunnah là-dedans, bien sûr, on a bien compris. Vous pouvez prendre un vaporisateur. Oui, un vaporisateur, mets de l'eau dedans, hein, avec un peu d'eau. Quand vous sentez le sommeil qui arrive, vaporisez-vous un peu le visage. Ça vous est jamais arrivé de faire ça en conduisant? Quand vous avez le sommeil, vous êtes en train de conduire, bon, ici, les distances ne sont pas énormes, mais vous prenez un mouchoir avec un peu d'eau fraîche, vous mettez sur le visage, parce que sinon, vous sentez que vous allez chuter, vous allez tomber, vous allez dormir, ça va être catastrophique. Soit un peu d'eau, lavez le visage, un vaporisateur. C'est pas qu'on se fait du tort, hein. Quand on écoute ça, j'étais ben vraiment les violents, les êtes pris à la nuit. Non, c'est qu'il faut y être. Comme on a dit hier, il faut le faire. On répond présent. Surtout là, c'est 25e, et après demain, c'est 27e, et ensuite 29e. Les nuits à pierre, franchement, il faut essayer de faire. Si on n'arrive pas, comme on l'avait dit hier en ventir, si on ne peut pas passer toute la nuit, on a besoin de dormir un peu, ben, on ne va pas trop se forcer non plus. On dort, mais un peu. Après, il y a un petit conseil, mais ça, je ne le mets pas en pratique, donc j'ai du mal à vous le dire. Les savants conseillent également, si tu veux te réveiller tôt, ben ne mange pas beaucoup le soir avant de dormir. Le problème, c'est que quand je finis après la Tarawih, je mange beaucoup. Parce qu'on ne mange pas beaucoup après Maghrib, donc là on mange le riz, on mange tout ça, ben après le ventre est lourd. Mais idéalement, je vous le dis, mais je ne le fais pas, je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu ce soir, Michael, idéalement ce serait de manger quelque chose de léger. Hein, à base de pain, sandwich, je ne sais pas ce que vous voulez, mais évitez les trucs du riz, carré, les trucs qui sont lourds, parce que si le ventre il est, mashallah, bien gonflé comme ça, tu dors comme un roi, comme un gros roi. Et après, c'est difficile de se réveiller. C'est comme ça, nous sommes des êtres humains, peut-être un soir ou deux, on essaie de faire un petit sacrifice, on ne mange pas trop. Et puis pour le soir, on va se rattraper. Gardez votre riz carré pour le séhri. Si vous avez le coffre, vous mangez le riz pour le soir, il y en a qui peuvent bien le faire, ben, ok, mais... C'est sûr, quand le ventre est lourd, on n'arrive pas à se réveiller et on n'arrive pas à rester concentré. Ah, voilà donc quelques conseils. Ce que les savants disent également, quand on fait doigt, si on sent qu'on manque de conviction, on essaie de se rappeler un peu de ce qu'on avait dit, des histoires des prophètes. Tous les prophètes qui ont obtenu l'aide d'Allah, qu'ils ont demandé doigt jusqu'au bout, Ibrahim alayhi salam face au feu, Yunus alayhi salam de le ventre de l'Abel, Moussa alayhi salam face à la mer, et ainsi de suite. Et on se dit que ben, c'est le même Allah qui leur est venu en aide à chaque fois. C'est pas que Allah agit d'une façon avec ses prophètes et avec les autres, Allah n'écoute pas, il ne donne pas considération. Non, Allah agit de la même façon avec chacun de ses serviteurs. Donc, avec ça, on doit avoir une force de conviction pour demander à Allah. Et on demande quoi? On demande tout ce qui est nécessaire pour notre dîn en premier. Wallah,
istiqama, ihdina sirat al-mustaqim, que je reste sur le droit chemin, que ce iman reste dans mon cœur, que jamais j'accomplis une action, que tu es déçu, entre guillemets, de mon comportement, que tu m'éloignes du droit chemin. Il y a des gens, moi je connais, il y a des gens, ils étaient à fond, après je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne les voit plus, ils disparaissent. Absence de pratique, recul de la foi, qu'Allah nous protège des fitna fid-din, d'être perturbé, d'être éprouvé dans notre foi, dans notre pratique de la religion. Quand certains sahabas ont été éprouvés par la maladie, ils remercient Allah de ne pas leur avoir donné quelque chose de plus lourd, de plus grave, et surtout ils remercient Allah que l'épreuve touche leur corps. C'est physique, ce n'est pas une épreuve spirituelle. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une personne qui commence à douter de sa foi, de sa religion, Allah nous protège. Donc, demandez à Allah de garder la foi, et que ce soit un iman qui augmente jour après jour, qu'on se rapproche de Allah Azza wa Jal. Ensuite, demander doigts en rapport avec tout ce qui est en rapport avec la foi. Après, on peut augmenter, on peut broder tout autour. Des doigts en rapport avec la santé également. Ce n'est pas uniquement qu'on est vieux qu'on doit demander doigts pour la santé. Il y a des personnes qui ont 18 ans, 19 ans, d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas, on fait une prise de sang, on se rend compte que la personne a un cancer, un stade avancé. Et ça, il y a énormément. Il y a de plus en plus. Qu'Allah nous protège. Donc, demandez à Allah protection, qu'Allah nous garde en bonne santé, que nous ne soyons jamais atteints par des maladies graves, ou être jamais dépendants de médicaments ou d'appareillage ou autre chose. Donc, ça doit faire partie des doigts essentiels du musulman. La foi, iman, la santé. Ensuite, doigt pour les proches, pour la famille, pour nos parents, s'ils sont encore vivants. Et s'ils ne sont plus de ce monde, raison de plus de demander doigt pour eux, pour nos grands-parents. Pour nos enfants, si on a des enfants, qu'Allah les garde sur le droit chemin, qu'Allah les protège des fitanes, des sources de troubles, de péchés, qu'Allah garde nos enfants dans le droit chemin, qu'ils puissent un jour lire le Coran, devenir des hufaz du Coran, qu'ils aient la connaissance. Tout ce qu'on souhaite pour nos enfants, c'est le moment de demander à Allah Azza wa Jal. Également, après, c'est des doigts personnels. Si quelqu'un veut un travail, il a besoin de se marier, ou quelle que soit la situation, c'est vraiment l'occasion de demander à Allah Azza wa Jal nos rêves, avouer nos péchés. Avouer. Le seul avec qui on peut avouer, c'est Allah. Dans d'autres religions, quand vous commettez un péché, vous allez voir l'homme de religion, l'homme de foi, et vous allez vous confesser. Dans notre dîn, la relation, elle est directe avec Allah. Il n'a jamais été dit d'aller voir l'imam, le foundi, dit quel péché tu as fait. Il va te dire, on n'est pas là pour ça. Et on ne veut surtout pas savoir. C'est pas la relation avec Allah, elle est directe. Elle ne transite par aucun être humain. Donc c'est avec Allah qu'on peut tout avouer. On peut dire, Allah, je fais telle chose, telle erreur. Même si Allah le sait, mais le fait de le dire, de le noir, de la solitude, c'est un exemple de remords. Ça prouve qu'on a des remords. Voilà donc quelques conseils. Et puis un conseil, on va dire, un peu plus personnel. Si vous avez des livres de doua, moi j'utilise ce livre-là, peu importe, invocation choisie pour la prosternation, la prière du witr et la récitation du Coran, c'est un livre qui est très bien. En plus, j'ai une version avec traduction en français, je ne prête pas, ne demandez pas. Et donc, ça, on l'a acheté à Makkah al-Mukarrama, des éditions Darus Salam. Je pense que vous pouvez l'avoir aussi sur Internet. Il suffit de taper invocation choisie du Coran de la Sunna. Et c'est un petit livret qui est vraiment excellent, excellent. Il y a les doigts masnoun, il y a des doigts, mashallah, très variés avec la traduction. Et en plus, avec les accents, pour ceux qui ont besoin d'accent, alhamdoulilah. Donc, il n'y a pas de mal à lire. Et l'avantage, c'est que tu lis le doigt et tu as la traduction en dessous. Donc, ce n'est pas que tu es en train de lire comme un poème, comme si tu lis quelque chose par lequel tu ne comprends pas. Donc, tu peux en même temps suivre. C'est profitable. Parce qu'il y a des fois, on est en panne de doigt. Pourquoi est-ce qu'on est en panne de doigt? Parce qu'on a, malheureusement, plus l'habitude de faire des doigts. On n'arrive pas à tenir une heure et demie de doigt. Donc, si on peut s'aider par ces livrets, ça peut être positif. Qu'Allah nous accepte. Qu'Allah, Rabbul Izzah, de sa clémence, sa miséricorde, ait pitié de nous, malgré nos manquements, malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses, qu'il nous accepte pour faire quelque chose de très bien ce soir, dans la nuit du 25e, et penser à l'ensemble des musulmans de les doigts. Ah, il y a un point très important qu'on a oublié de dire, depuis 2 ou 3 jours, j'y pense, il y a une catégorie de doigts qui est automatiquement acceptée, c'est quand tu fais doigts pour ton prochain. Quand tu fais doigts pour toi, ça c'est bien. Mais le doua que tu fais pour ton frère en islam, ça a une répercussion immédiate sur toi-même. Parce que lorsqu'un musulman, le hadith stipule que lorsqu'un musulman invoque Allah, demande des doua pour son frère en islam, l'ange dit Amin, wa, en ce sens, wa laka mithlu dhalik. Et qu'Allah t'accorde pareil. Tu me dis, Allah garde ce frère en bonne santé. Les anges disent Amin et qu'Allah t'accorde la même chose. Subhanallah. Qui c'est qui dit Amin? Ce sont des anges. Qui fait doigt pour toi? Ce sont des anges. Et en termes de spiritualité, c'est un autre niveau. Créature de lumière. D'accord? Donc, faire doigt pour nos frères et sœurs en islam, c'est quelque chose de très bien. Et ça nous garantit nous-mêmes de bénéficier des doigts que nous sommes en train de demander pour notre prochain. Et ça ouvre le cœur. Ça fait que dans ton cœur, tu ne penses pas qu'à toi seulement. Tu penses à toi, ta famille, tes proches, mais tu penses à l'ensemble de la Ummah. Parmi, et là c'est une grande source de récompense, et ça c'est un hadith authentique, de lequel il est stipulé que quand un musulman demande à Allah de pardonner tous les croyants, et les croyantes, par exemple, Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, ce doigt-là on le lit tout le temps. Mais on a l'impression qu'on le lit comme ça, c'est juste comme ça pour réciter. Ça doit être très important. Il dit que Allah t'accorde une récompense pour chaque croyant qui existe, qui est vivant à cette époque. Ça, c'est dans le trésor d'Allah. Ça, c'est une preuve de la générosité d'Allah. Si à cet instant, à l'instant T, il y a 2 milliards de musulmans, ben, quand tu dis, oh Allah, pardonne tous les musulmans sur la terre, ben, Allah t'accorde une récompense pour chaque croyant. Et le hadith est authentique, on doit avoir une conviction dessus. Quand on s'engage dans une relation spirituelle, dans l'adoration avec Allah, il faut savoir que le retour de la part d'Allah, il est exceptionnel. Donc, on n'oublie pas de demander doigt pour nos frères et sœurs. Pensons à nos frères et sœurs également opprimés, qui sont dans des endroits, dans des pays où ils ne peuvent pas s'asseoir dans une masjid comme ça, où il n'y a pas la sécurité, où il y a soit la pauvreté, soit des problèmes politiques, soit des problèmes de différentes natures. Qu'Allah Rabbul Izzah leur vienne en aide et qu'Allah Azza wa Jal soulage les difficultés de chaque croyant. Demain samedi, on ne fera pas de programme, dimanche non plus, et lundi, ce sera le Khatm al-Qur'an, Inch'Allah. Donc on doit être là, hein, le doigt de la clôture du Qur'an, c'est un moment important. On vient avec nos enfants, on vient avec nos petits frères, on essaie de faire en sorte que le maximum de personnes puissent assister à ce grand moment. Wa tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.